Du coup, les gens que tu as interviewés, c'était quoi? C'était des squats de vie, des squats d'artistes, c'était dans des concerts, c'était...
C'était souvent après des concerts ou en tournée, en fait. J'ai eu la chance de tourner avec mon groupe et donc de rencontrer des personnes à chaque fois. Je trouvais que c'était un dispositif intéressant chez eux ou chez elles, de mettre en place le dispositif d'interview plutôt que d'avoir un rendez-vous un petit peu dans un endroit neutre, histoire que les personnes sont en sécurité pour parler justement des questions de domination. Le problème, c'est ce que je te disais, c'est que j'ai dû commencer à réaliser des entretiens avec les femmes, et en fait, au bout du cinquième, sixième, je me suis dit, merde, il y a un truc qui cloche. C'est pour ça que j'ai préféré, pour cette com-là, comme première, premier défrichage de ce terrain-là, partir de ce fanzine non mixte, pour avoir un discours qui est censé être un peu safe, même s'il y a des enjeux de distinction aussi dans la prise de parole qu'elles peuvent avoir. Alors, j'ai joué dans plusieurs groupes. J'ai joué dans un groupe qui s'appelait Zombies Harpist, un groupe de punk hardcore qui a joué pas mal de fois à la Miroite à l'époque. Je viens de Caen, du coup, mais c'est quand même la maison là-bas. Et du coup, j'ai joué aussi dans un groupe qui s'appelait Situations. Et là, je joue dans un groupe qui s'appelle Cold Hard Days, qui est plutôt un groupe punk rock à la Replacements. Situations, c'est plutôt un groupe de hardcore. Et en fait, cette idée-là, elle m'est venue d'une anecdote que je peux raconter pour le coup, parce que c'était après un concert de Zombies Harpist, où on prenait le temps entre les morceaux, justement, de questionner, de discuter un petit peu des problèmes, soit contemporains, liés à l'époque, il y avait le début de la ZAD, il y avait des choses comme ça, donc d'informer aussi, par le médium qui était le micro, sur des combats politiques, et aussi sur la question du sexisme et de la reproduction du sexisme. Et un jour, il y a un type qui vient me voir, qui me dit « Ouais, c'est cool ton groupe, mais c'est chiant quand même, les discours entre les morceaux. » Je sais pas, qu'est-ce qui t'a fait chier, en fait ?» Il me dit « Bah, c'est bon le sexisme, on sait tous là que c'est nul le sexisme, il n'y a pas de sexisme dans la scène. » Et du coup là j'étais un peu emmerdé, je fais bah t'es sûr vraiment et tout ça, et là il y a la chanteuse de son groupe qui dit « Mais en fait je comprends pas qu'est-ce qui t'emmerde. Si t'es d'accord avec le fait que le sexisme c'est de la merde, pourquoi si t'es d'accord tu devrais pas avoir de problème avec le fait d'entendre quelqu'un qui répète le même discours que toi ? C'est finalement que ça te dérange non ? Qu'on en reparle ? » Et là en fait je les ai lâchés parce qu'ils ont commencé à s'écharper. Mais c'est la première, elle était allemande, donc du coup elle avait un autre rapport aussi à la prise de parole politique dans les concerts. Elle venait notamment de la scène squat berlinoise, etc., où c'est quelque chose de plus commun dans les milieux anarcho-punk. Mais lui, en fait, ça l'emmerdait, il était là pour boire des bières et écouter de la musique, alors qu'il se disait antisexiste, anticapitaliste, etc., mais fallait pas qu'on en parle. Et c'est là que je me suis rendu compte que pour tout un tas de copains de cette scène-là, ça se limitait vraiment au moment de la musique, et que quand ils rentraient chez eux, bah finalement, ils avaient vécu leur révolution, le temps du concert, etc. Et puis dans ce cas, ça se prolongeait de cuite, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça en fait que la typologie horrible que j'ai faite, c'est des postures. Hein. C'est pour ça que c'est pas une personne à chaque fois. C'est plutôt des types de comportements qu'on peut observer. Quoi. Mais j'ai fait un truc typologique, sociologique de merde. Mais en fait, on le fait tous au quotidien quand on est dans les concerts et qu'on voit les relous qu'on peut avoir aussi. Hein. Alors. Dans le fanzine, justement, le projet donc de la... Parce que, du coup, ce que j'expliquais, hein, c'est pas des entretiens...
On a la rédactrice du fanzine.
Ouais. Ah bah c'est toi qui as fait le fanzine,
oui,
du coup.
C'est
ah bah,
ça, bah, on se rend compte. Le fanzine, il a été lancé en mars 2016, donc il est tout récent. Et en fait, juste pour vous expliquer comment on arrive à avoir ce genre de récit, en fait, le principe que je leur donne, c'est de faire des autoportraits d'elles, où le minimum, c'est juste un visuel et une description du truc dans lequel elles impliquent, donc soit le groupe, une association, faire des photos, des fanzines, etc. Et après, elles parlent de ce qu'elles veulent, et c'est elles aussi qui font la forme, le visuel du portrait pour que ça leur ressemble le plus possible. Et du coup, moi, je n'impose pas du tout de parler de sa place en tant que femme dans la scène. C'est elle qui, en fait, étant donné que le fanzine s'appelle aussi Big Up Girls, dit fanzine musicale et féministe, et je pense qu'elles prennent cette parole-là pour parler de ça, mais c'est des filles qui viennent de la France, un peu partout en France, et au niveau des âges, je pense que c'est plutôt... Entre 20 et 30 ans, et certaines personnes, ça va jusqu'à 40-50 ans maximum. Il y a des personnes qui font des groupes depuis les années 80, mais si vous lisez les portraits, c'est surtout 25-30 ans, ouais, je dirais. Là. Ouais, alors, du coup, j'ai commencé avec les personnes que je connaissais, Et après, j'ai demandé à ces personnes-là si elles connaissaient d'autres personnes, donc aux filles. Et en fait, petit à petit, le réseau s'est ouvert. Et moi, dès que je suis en rencontre, en concert, en tournée avec mon groupe, en fait, du coup, je rencontre des personnes et on parle autour du fanzine. Moi, je profite du fait de chanter dans le groupe pour prendre le micro et parler de tout ça. Et ça crée plein de discussions aussi à la fin des concerts. On fait aussi une release party à chaque sortie de numéro dans une ville différente, où on prend le temps de montrer en vrai de quoi on parle dans le fanzine, donc avec des groupes de ces filles, avec une exposition photo, avec des ateliers d'expression libre qui sont là, mixtes. Voilà, on essaye de créer des temps de rencontre et de discussion autour de tout ça. Alors, il va y avoir une partie non-mixte maintenant, qui est vraiment fixée non pas sur des portraits, mais sur des ateliers d'expression libre où je fais sur des questions précises, mais qui seront à partir du prochain numéro, mais qui sont vraiment fixées sur à ceux qui sont présents à la release party et dans le cadre des discussions qui se créent. Voilà. Mais c'est des tests. En fait, le fanzine, il est pas. C'est un test de. C'est des essais depuis le départ. Il n'y a rien de fixé. On avance, on évolue ensemble. Voilà.
Bah, moi, du coup, j'ai une question pour toi. Je la rencontre, en fait, pour la première fois. Du coup, est-ce que, vu que tu revendiques quand même fanzine musicale et féministe, j'imagine qu'il y a certains discours qui doivent être étranges, en fait. Je sais que j'en ai discuté avec des copines féministes qui l'ont lu sur Nantes. Et sur Angers, qui était là, genre, bah ouais, des fois, c'est quand même chose que peuvent dire les copines, quoi.
Ouais. Alors, moi, déjà, de base, je le disais pas féministe, alors qu'il l'était, mais parce que j'étais pas forcément à l'aise avec ce mot-là, parce que moi, j'avance en même temps que toutes ces filles-là et que l'évolution du fanzine, en fait. Et c'est une fille différente qui fait la couverture, et c'est la première fille qui a fait la couverture, qui est une photographe de Toulouse, qui a mis le sous-titre « Fanzine musicale et féministe ». Et en fait, c'est à partir de là où je me suis posé la question et je me suis dit, ben oui, en fait, c'est féministe. Mais du coup, oui, elle ne se dit, il y en a très peu qui se disent vraiment féministes dans les portraits. Et moi, l'idée, c'est vraiment de faire une sorte de coussin bienveillant où chacun peut s'exprimer. Très souvent, c'est la première fois où ces filles-là se posent ces questions-là, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est juste de prendre un temps tous ensemble pour poser ces questions-là. Et non, du coup, il n'y a pas de sociologue ou de personne qui ont l'habitude d'intellectualiser la chose, quoi. Mais voilà, c'est assez spontané, ouais. Et du coup, en fait, on n'est pas d'accord avec toutes ensemble sur comment on vit les choses. Et on a chacune nos expériences et on vit chacune différemment les choses, quoi. Mais voilà, c'est, je pense, l'intérêt aussi quand même de ce fanzine-là, c'est sa diversité.
C'est pour ça que je trouvais que c'était un corpus très riche.
C'est intéressant de voir l'analyse que nous, on ne fait pas en lisant comme ça. Il y a des choses qui nous parlent ou pas, mais on n'analyse pas comme ça aussi.
Et il y a aussi autre chose qui me frappe, alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais je me dis que le punk s'est mis à beaucoup réfléchir quand même. Et je trouve ça intéressant par rapport à... Enfin, voilà. Mais bon, je pense que ça fait un moment que c'est grave, mais depuis Crass, peut-être depuis... Depuis le hardcore, peut-être aussi Côte-Est, celui de Washington au moins. Mais oui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça hein?
En fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même que la scène dont je parle, là, moi je l'identifie vraiment sa naissance fin 80, début 90. Avec Stone Age, pour moi, c'est vraiment le label qui met en place toute une dynamique aussi très intello, en fait. Pourquoi moi, les copains... qui m'ont mis les pieds là-dedans, en fait, c'était des gens qui avaient fait des études à la fac. Alors, ce que je disais, pas forcément des gens de classe moyenne, peut-être aussi des prolétaires, souvent des gens qui venaient de la campagne aussi à la base, qui n'avaient pas forcément accès aux études supérieures quelques générations plus tôt, mais c'est le moment aussi où il y a la démocratisation de l'enseignement supérieur. Du coup, il y a plein de gens qui accèdent à la fac, et qui effectivement, par rapport à leur trajectoire familiale, etc., se posent des questions, aussi parce qu'ils aimeraient bien comprendre ce qu'ils foutent là. Et du coup, il y a ce que j'explique dans l'article, là, dans l'article pour volume, il y a une compétition dans la radicalité politique et intellectuelle à ce moment-là aussi qui est énorme. Tous ont souffert de ça dans cet entre-soi-là. Hein. C'était Il y avait des tableaux de score à Caen, ce qu'ils appelaient la Punk House, qui était un endroit où il y avait des étudiants, des punk DIY, étudiants en philo, en sociaux, en sciences humaines et sociales d'une manière générale. Ils avaient un tableau de score de la Chour, en fait. C'était à celui qui allait voler le plus, quoi. Et c'est vraiment la compétition dans le geste radical. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça les a saoulés aussi, parce qu'ils se sont dit, on n'est pas là pour ça, enfin, c'est complètement ridicule. Donc il y a un discours très intellectualisant qui naît à cette époque-là. Et la scène dont je parle, moi, si tu regardes un petit peu comment elle est composée, parce qu'elle s'inscrit aussi dans la tradition de cette scène-là, c'est largement une scène bon, de dom, hein, comme souvent, de blanc, de classe moyenne et classe moyenne sup. Et donc, du coup, effectivement, quelque chose d'assez intello, quoi. Et voilà. Et en même temps, avec toujours cette espèce de méfiance vis-à-vis de l'université. C'est compliqué d'aller faire des entretiens toujours, parce que t'es le chercheur, quoi. Et puis parce que c'est chiant d'avoir des universitaires qui s'intéressent à ta vie, quoi. Non, en plus quand c'est tes potes, quoi. Donc, ce que je peux comprendre tout à fait, on peut en faire partie, quoi. Mais ouais, effectivement, ça s'est quand même intellectualisé. Et les États-Unis, pour moi, ont amené quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de groupes, le milieu anglo-saxon d'une manière générale, hein, des groupes comme toute la vague de punk rock de Brooklyn de la fin des années, enfin milieu des années 2000, qui après s'est déplacée dans des communautés queer, notamment la ville d'Olympia, etc., avec des groupes comme Reviver ou des choses comme ça, qui portent un discours ultra politisé, mais vraiment à la sauce appropriation des théories françaises à l'américaine, quoi. C'est la déconstruction des subjectivités, c'est tout ça, c'est. Et on est plus sur un discours politique plutôt anarcho-punk, teinté d'anarchisme et de marxisme, avec la question des rapports sociaux objectifs à combattre, quoi. Donc il y a une politisation, mais qui est plutôt liée à la trajectoire individuelle, à l'expérience, etc., à l'attention à l'autre, à ces choses-là. On est moins sur quelque chose de frontal, on est plus sur quelque chose d'individuel. Mais ça reste, du coup, encore plus intellectualisé. Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est le capital, c'est le patriarcat, c'est machin. C'est comment est-ce que tu es construit socialement et... T'as dû le voir, à mon avis, sur tes terrains aussi.
Ça se produit un peu comme s'il y avait une influence au niveau du DIY, par exemple, l'utilisation généralisée du mot, aussi bien que des pratiques stratège. C'est quand même quelque chose qui est venu comme une acculturation et avec des concepts qui étaient quand même produits principalement aux États-Unis.
Ouais, et c'est vrai que des fois, c'est pas
nécessairement
opérant.
Comme s'il n'y avait pas de dynamique de recherche et de réflexion interne et propre à la scène européenne ou à la scène française. Alors pourtant, il y en a eu aussi sur les histoires de squat, par exemple, c'est assez flagrant.
Bah ouais, et en fait, je pense que c'est cette influence des États-Unis, et notamment, il y a quand même quelque chose de l'ordre plus du sujet individuel dans les cadres théoriques, dans les cadres théoriques qui sont apportés des États-Unis et qui vont être appropriés par ces acteurs et ces actrices-là. Du coup, c'est vrai que bah moi, je viens plutôt d'une tendance mouvements sociaux. J'ai milité dans les milieux squat et anarchistes, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu de mal à m'y retrouver au départ. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne s'inscrivait pas dans une tradition plus européenne, justement, de l'anticapitalisme, un peu marxiste à grosses couilles. Hein, de, on ne se pose pas la question des luttes périphériques. Hein, les questions de féminisme, on verra ça après la Révolution. Ce qui compte, c'est de la faire maintenant et de combattre le capital, etc. Et donc ça a aussi eu du bon, cette acculturation. Mais le souci, c'est que, et ça, c'est, tu vois, c'était la chose dont je voulais parler aujourd'hui, mais qui est compliquée, c'est la question, par exemple, de l'intersectionnalité. Donc qui est le féminisme intersectionnel qui nous enjoint à appréhender les rapports de domination dans leur imbrication. En disant que c'est pas juste que ça se surajoute, c'est que ça s'imbrique. Être une femme n'est pas pareil qu'être un homme, être une femme noire n'est pas pareil qu'être un homme, une femme noire et homosexuelle n'est pas pareil qu'être un homme, etc. Et du coup, l'intersectionnalité, elle pose d'autres questions. C'est-à-dire que, par exemple, le féminisme reprend une place très forte dans ces milieux-là, mais la question de la classe sociale peut des fois être tue. Et moi, j'ai vu, par exemple, une copine s'énerver parce qu'un punk lui avait fait une blague de cul. Et effectivement, elle a eu raison de s'énerver. Mais du coup, j'étais en train de minorer, alors c'est vrai que je suis un mec, mais de dire, mais ouais, fais attention, c'est pas comme si c'était moi ou machin qui t'avait fait une blague de cul. C'est un type, il vit dans la rue. Il a pas du tout les mêmes trajectoires que toi, il a peut-être pas déconstruit les mêmes choses, il a pas lu les mêmes trucs féministes que toi, etc. Donc du coup, fais attention aussi à prendre en considération ces choses-là. Et on se rend compte que c'est très difficile, parce que pour elle, je lui renvoyais une violence. Tu nies la situation de domination dans laquelle j'étais. Et je fais, bah ouais, mais tu nies aussi celle de cette personne-là. Oui, mais t'es un mec, donc si tu me dis ça, tu remets en place une domination. Donc en fait, c'est une série de choses ultra complexes comme ça. Et ça, c'est effectivement plus des États-Unis, je pense. Ouais.
Moi, je voulais savoir, vu que tu parles de ça, c'est quoi ton positionnement face aux thèses racialistes, en fait? Parce que, par exemple, toutes ces choses-là, c'est beaucoup défendu aussi par le pire et tout, et je pense que le pire, ça pose pas mal de problèmes, quand même, au niveau antifascisme.
Ouais, alors en plus, t'as raison, là c'est plutôt, là, c'est pas la réponse de sociologue ou de punk que je vais te faire, c'est la question de militants communistes libertaires, quoi. C'est le fait qu'on galère en ce moment à intégrer ces questions-là. Et ça nous vient d'un langage universitaire, le fait de dire racialisé, etc., etc. Le truc, c'est aussi une réalité. C'est pas la même chose d'être un prolétaire noir que d'être un prolétaire blanc aujourd'hui. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça aussi dans nos cadres théoriques et dans nos pratiques militantes? Et donc, je suis un peu ambigu sur la question. Au début, je la rejetais en bloc, parce que la racialisation de la force de travail, le mot en lui-même, il m'emmerde. Moi, j'ai fait des études d'anthropologie, c'est quand même l'anthropologie qui nous a dit « Non, il n'y a qu'une seule espèce, il n'y a pas de race, etc. » Mais dans le vécu des personnes, quand tu fais des entretiens, c'est ce qu'on fait les facins, tu te rends compte que les personnes elles-mêmes s'identifient à une race. Du coup, c'est emmerdant. Parce que si tu écoutes les personnes directement concernées, elles te diront « Bah ouais, c'est pas la même chose. »
Oui, mais est-ce que justement, c'est pas la lutte des classes qui s'efface au niveau du contexte aujourd'hui au profit d'une vision de la société en race? Et là, par contre, la vision de la société en race, c'est, tu bascules de des thèses révolutionnaires à thèses réactionnaires. Et il y a aussi fait qu'en Amérique, c'est aussi cette vision de l'antiracisme et l'antisexisme est comme ça, parce que c'est un pays qui est très communautaire, on va dire, alors que ici, bon, on peut pas nier qu'il y a, il y a des espaces qui sont... Bon, ça existe, mais c'est pas vraiment quelque chose de... C'est pas un modèle communautaire comme les USA, quoi. Alors je sais pas si nous, dans les milieux militants, on devrait reproduire cette société à l'américaine, quoi.
Je peux pas dire ce qu'il faudrait faire dans les milieux militants. Je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire. Ce que j'en pense, moi, c'est que la réalité parisienne, elle est largement différente de la réalité de province. Que la stratification socio-spatiale dans les villes provinciales, les quartiers sont beaucoup plus sujets au communautarisme, parce que c'est des populations spécifiques qui viennent après la guerre, au moment post-colonial, pour justement reconstruire, etc., qui sont surexploitées et qui se retrouvent effectivement localisées dans la ville. Et donc du coup, tu le vois vachement plus, la frontière, elle est largement plus visible. Une ville comme Caen, par exemple, tu vois une frontière claire entre le centre-ville et la périphérie par rapport à la couleur de peau. Et c'est emmerdant, parce que qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu défends la lutte des classes? Et je suis d'accord avec toi, si tu veux.
Ça pose beaucoup de questions, c'est sûr. Ouais. Mais alors, pour une dernière chose, c'est aussi le fait que, bon, voilà, moi aussi, j'étais étudiant, donc je suis d'accord parce que je maîtrise un peu tous ces concepts et tout. Mais parmi des amis à moi qui sont aussi libertaires, mais qui n'ont pas vraiment été étudiants, ils se retrouvent, on va dire, ils se sentent exclus de toutes ces luttes-là, féministes et antifascistes, parce que des gens, on va dire... que eux, ils appelleraient gauchos fragiles, leur dit des trucs genre, ouais, hein, alors que, enfin, leur font de la morale continuellement, que ce soit des filles, des gars, des machins, et eux, ils sentent vraiment, alors qu'ils étaient à la base de bonne volonté, mais ça leur donne vraiment envie de devenir apolitique tellement ils se sentent tout le temps jugés au moindre mot qu'ils disent et tout ça, quoi.
C'est pour ça que la meilleure chose pour discuter de ces choses-là, je pense que c'est le format de l'Assemblée Générale. Tout simplement. Parce que ça permet justement, sur un temps plus long, d'expliquer progressivement et sortir du format universitaire pour discuter ces trucs-là, je pense. Mais enfin, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On peut en discuter tout à l'heure, ça va être...
Pas de problème. Merci Simon, qu'on peut applaudir. Merci pour cette com'.